de France 3, de RCF, m'a contacté. Elle m'a dit, mais pourquoi avez-vous donné ce titre? Alors j'ai dit, parce que je trouve que le titre qui était donné, « Rends le monde plus beau avec le monde qui était à ta naissance », était dans le fond un résumé tout à fait clair de ce que devait être notre action. Mais, mon Dieu, mais je me suis posé des questions et je me suis dit que peut-être il serait bon, puisque c'est votre semaine de théologie, de revoir certains textes et de dire ce que ces textes, dans notre vision de ceci, ce que ces textes veulent bien nous dire, ou nous disent à nous qui les lisons aujourd'hui. Alors permettez-moi de reprendre le premier chapitre de la Genèse, parce que tout commence par là, même si hier j'ai été très perturbé par la lecture d'un article qui s'intitulait « La réalité virtuelle ». Alors je me suis dit que si on pose d'abord la réalité et qu'ensuite on la virtualise, elle n'est plus réalité. Et que dans le fond, il faudrait dire la virtuelle réalité et non pas l'inverse. Mais en électronique, on passe, et en Internet, il y a des choses curieuses qui se passent. Enfin, toujours est-il que la réalité pour nous dans la tradition juive, c'est de reprendre les textes et de se demander ce qu'ils veulent bien nous dire. Aujourd'hui, Genèse 1, encore une chose qui est quand même très curieuse, quoique je ne pense pas que la Bible soit un livre de science ni un livre d'histoire, c'est, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette découverte il y a une dizaine de jours de la lumière originelle, qui ressemble totalement à ce que la Bible appelle le tohu-bohu. Parce qu'elle ne pas, enfin, la masse originaire ne laisse ni passer la lumière qui est en quelque sorte emprisonnée, ni les sons. Donc c'est peut-être cela le tohu-bohu, mais je ne pense pas que le rédacteur de la Torah ait été un chercheur au CERN ou ailleurs. La première affirmation, c'est qu'il y a eu un commencement, c'est qu'il y a eu une création et c'est qu'il y a eu un créateur. Et cette première affirmation, elle nous dit dans le fond que le monde dans lequel nous vivons est un monde que l'on ne peut pas diviniser. Puisque Dieu l'a créé, puisqu'il est à l'extérieur de cet univers, certes il en est le créateur, nous ne savons pas comment, mais lui il le sait, certes il en est le créateur, mais cet univers dans lequel nous sommes, d'une certaine façon, est différent de lui. Et s'il est différent de lui, ce monde dans lequel nous sommes ne peut pas être le support d'une divination quelconque ou d'une qualité qu'on lui donnerait et qui serait la qualité divine. En quelque sorte, la création place le monde dans lequel nous sommes, l'univers dans lequel nous sommes, à l'extérieur de Dieu, bien que certains pensent que rien ne peut échapper à ce que Dieu est, mais il y a une séparation entre le Créateur et l'objet créé qui fait qu'aucun espace, aucun élément de cette création ne peut acquérir... C'est pas de ma faute, je l'ai éteint.
Ça veut dire que c'est pas vrai.
Le tutut ? Oui, mais qui l'a dit que c'était pas vrai ? Qui a dit que c'était pas vrai ?
C'est quelqu'un qui me le dit de là-haut.
Ah oui.
Ou alors qui dit que c'est juste.
Ah ben, il faudrait savoir. Donc, en tout état de cause, ce monde est séparé. Et si ce monde n'est pas part de la divinité, de Dieu, c'est donc qu'il est en quelque sorte à notre disposition, puisque nous en faisons partie, et que ce monde influe sur nous comme nous influons sur ce monde. La deuxième affirmation du premier chapitre de la Genèse, c'est que ce monde dans lequel nous sommes est fondamentalement bon. Puisqu'à chaque étape de la création, Dieu considère cette création, à part un jour de la semaine, mais comme il dit une autre fois, deux fois il est bon, cela rétablit l'équilibre. Ce monde donc dans lequel nous vivons est bon. Ce qui veut dire que la nature qui nous entoure et nous-mêmes sommes par principe, par définition, bons, positifs. Il faut donc avoir avec le monde qui nous entoure une relation dans la positivité et non pas dans la négativité, dans la complémentarité et non pas dans l'opposition. La troisième chose que vient nous dire le premier chapitre de la Genèse, c'est que dans ce monde, il y a une organisation, chaque chose étant différenciée. Cela commence dès le premier jour où le texte dit « Et Dieu a séparé, a divisé la lumière et l'obscurité, le jour et la nuit. » Et lorsque l'on lit le texte, on s'aperçoit dans le fond que plus on avance dans la lecture de ce texte, plus le monde qui apparaît est un monde différencié. Et si ce monde est différencié, non seulement il est bon parce qu'intrinsèquement il a été déclaré comme tel, mais si il est différencié, cela veut dire que nous devons veiller à ce que ces différences, à ce que ces identités propres à chaque élément qui constitue notre univers restent avec leurs qualités et avec leurs aspects. L'autre idée qui est constitutive de ce premier chapitre de la Genèse, c'est la capacité qui est accordée à l'humain. Alors on pourrait très bien dire que c'est une capacité qui lui est accordée et qui est un peu, entre guillemets, impérialiste, puisqu'il semble être le seul, ou nous semblons être les seuls, à pouvoir influer sur le développement de l'univers. Mais le texte dit clairement que faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, domineront le poisson de la mer et l'oiseau du ciel et la bête et toute la terre et tout le fourmillement qui fourmille sur la terre. Donc il y a effectivement une capacité qui est accordée à l'humain d'intervenir sur cette nature de façon presque autonome. Je dis presque autonome, parce que, rappelez-vous ce qui a été dit avant, il faut garder à cet univers son caractère positif de bon, et il faut garder à cet univers la différenciation qui existe entre les différents entre les éléments qui le constituent. Et enfin, mais juste c'est une petite incise, il ne faut pas oublier que dans l'optique de ce premier chapitre de la Genèse, l'humain est végétarien. Ce qui était parfaitement compatible avec le déjeuner que nous avons partagé ensemble. Donc, ce midi ou aujourd'hui, nous sommes dans une parfaite identité et continuité avec le premier chapitre de la Genèse. Ce premier chapitre pose donc en quelque sorte les fondements, les bases de ce que pourrait être ou de ce que devrait être notre action de tous les jours, non seulement une action volontaire sur le monde qui nous entoure, mais également une action involontaire par tout ce que nous entreprenons et dont les conséquences, quelquefois, se font jour longtemps après. Genèse, chapitre 2. Adonai Dieu, dit le texte, a pris l'humain, et il l'a laissé dans le jardin d'Éden pour le servir et le garder. Deux termes. Le Ovdo ou le Chomro. Ce jardin était un lieu qui était un lieu de perfection absolue. Dans le sens qu'il était, comme le texte le dit, entouré de fleuves. Il y en avait quatre. Donc un espace naturel qui n'avait pas besoin ni de pluie ni de rosée, puisque dans le fond, il y avait une irrigation naturelle de cet espace. Et dans cet espace, Dieu place Adam et Ève pour le servir et le garder. On oublie souvent le premier terme. Et on pense souvent au second. Le garder, ça veut dire le conserver dans son état, mais également, éventuellement, intervenir dans ce jardin pour que ce jardin devienne quelque chose qui devienne en quelque sorte le fruit de l'action humaine. Mais sans oublier que c'est pour le servir. C'est-à-dire que la nature, si nous prenons ce verset, n'est pas à notre service, c'est nous qui sommes au service de la nature. Et ce changement d'optique fait que dans le fond, le texte nous place non pas dans un assujettissement, mais dans une responsabilité vis-à-vis du monde qui nous entoure et une responsabilité qui est clairement indiquée. Comment s'est-elle manifestée, cette responsabilité, dans le cours du reste du texte biblique? Eh bien, il y a d'abord, on va sauter au troisième livre, le livre du Lévitique, au chapitre 19, qui est le chapitre qui commence « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel ». Donc c'est un chapitre clé dans ce livre du Lévitique, qui nous dit qu'il y a une possibilité pour nous d'atteindre une étape, une élévation et une perfection si nous acceptons de procéder selon des règles. L'une de ces règles dit ceci au verset 19, « Mes lois vous garderez, tes bêtes tu n'accoupleras pas de deux espèces, ton champ, tu n'ensemenceras pas de deux espèces, et un habit de deux espèces, lin et laine, ne tiendra pas sur toi. » J'ai pris la traduction de Méchonique, parce qu'elle est extrêmement claire. C'est donc l'interdit de mélanger les espèces ou ce qui se trouve dans le monde pour en faire quelque chose de nouveau. Ceci peut avoir de très nombreuses implications. Et il y a d'ailleurs, dans la loi juive, dans la loi des rabbins, il y a une emphase et une insistance sur ce verset. Ainsi, on lit dans le Talmud, « Il est interdit d'accoupler des bêtes d'espèces différentes, ainsi que de greffer des arbres avec des greffons provenant d'espèces différentes. » Je vous laisse à penser tout ce que l'on a aujourd'hui, et qui fait que on pourrait se poser la question, avons-nous le droit, ou est-ce consommer par exemple un pomelo, puisqu'on est en hiver, est-ce compatible avec cette loi? Et puis il y a de très nombreux phénomènes qui ont été induits par l'humain, et on pourrait se dire, maintenant, tout ce qui est mixte, je vais l'écarter. Pêche abricot, je n'en prends plus. Le seul problème, c'est que nous savons pertinemment que la nature elle-même évolue. Et que parfois, il y a des greffes non humaines qui se font par le jeu de ce qui se passe au sein de la nature et qui fait que, dans le fond, on peut se poser la question de ce que veut dire exactement ce texte. Surtout que plus tard, et surtout, depuis le 19e siècle, et encore plus dans notre siècle, des rabbins ont contourné cette interdiction et se sont demandé si réellement cette interdiction pouvait continuer à être utilisée. On trouve dans le texte d'un rabbin du 19e siècle le texte suivant. Le matériel génétique d'un végétal qui fait partie des aliments n'est pas considéré comme aliment lui-même, mais comme un élément inerte, c'est-à-dire sans qualité particulière, et dans notre tradition juridique, à partir du moment où un élément a perdu sa qualité première et qu'il est considéré comme inerte, il est neutre, donc il est utilisable dans toutes les circonstances. Et en conséquence de quoi ? On peut l'introduire dans un autre élément sans que cela puisse être considéré comme un assemblage interdit par le Lévitique 19 et par le texte du Talmud que je vous ai cité tout à l'heure. Et ceci est intéressant. Ceci s'applique au transfert non sexuel, c'est-à-dire non naturel, quand il y a fécondation, que ce soit d'une façon ou d'une autre, au sein de la nature, et cela se passe de façon extrêmement large. Si le transfert, dit ce texte, d'un jus d'un fruit sur un autre arbre influe sur les caractéristiques génétiques de cet arbre, alors le transfert contrevient à la loi, parce que, en fait, ce n'était pas un élément inerte, en quelque sorte. C'était un élément qui découlait de l'arbre lui-même. On n'en avait pas enlevé les qualités, et donc c'était un accouplage interdit. Conséquence, vous le voyez, à ce niveau-là. Mais ce texte du Lévitique est intéressant, parce que malgré tout, il nous met en garde. Si on le prend simplement dans une lecture simple, dans une lecture linéaire, ce texte nous dit une chose. N'oubliez pas que la création, et dans laquelle vous êtes, vous, inséré, est une création multiple, multiforme. Et que s'il vous arrive peu à peu de procéder à des modifications, cette création risque de perdre justement cette qualité de différence qu'il y a à l'intérieur d'elle. Un de mes maîtres disait, pourquoi doit-on à chaque fois énoncer une bénédiction quand on mange? Et pourquoi y a-t-il des bénédictions différentes pour le fruit de l'arbre, pour le fruit de la terre, pour le pain, pour la pâtisserie, etc., etc. Et il disait la chose suivante, il disait, nous avons une qualité qui est notre qualité gustative et notre odorat. Chaque élément que nous consommons a un goût, a une odeur et a une texture. Et dans le fond, lorsque nous énonçons une bénédiction, non seulement nous disons que nous remercions celui qui nous a créés de nous donner de la nourriture, mais disons que ça devrait être une normalité, parce que sinon nous ne pourrions pas exister, mais surtout que cette nourriture que nous consommons, elle a différentes odeurs, différents goûts et différentes textures. Et il faut, en quelque sorte, même si ce terme apparaît un peu excessif, il faut jouir, c'est-à-dire il faut ressentir ces différences, parce que ces différences, ce sont comme les couleurs et les nuances, c'est ce qui donne en quelque sorte la beauté à tout ce qui nous environne. Donc, il y a d'un côté dans la tradition juive, ce texte qui nous dit attention, il est interdit de mélanger les espèces, et d'un autre les rabbins qui disent oui mais, la nature elle-même mélange, la nature elle-même évolue, donc il y a une possibilité pour nous d'intervenir sur la nature, en conséquence de quoi, dans certains cas très limités, où l'on va introduire un objet qui aurait, un élément qui aurait perdu ses qualités dans un autre élément qui a gardé les siennes totalement, eh bien ce couplage va être autorisé. Et d'ailleurs, déjà à l'époque, il y a une quinzaine de siècles, dans le Tanhuma, on trouve « Tout changement introduit par l'humain était implicitement contenu dans l'acte de création. » Déjà à cette époque. « L'acte du chercheur, » c'est une traduction un peu moderne, hein, « l'acte du chercheur est d'actualiser une potentialité et de bonifier la nature. » En conséquence de quoi, ce texte du Lévitique, qui semble extrêmement restrictif, a été, je dirais pas contourné, mais élargi, de telle sorte qu'il a permis, déjà dans les temps anciens, à procéder à des mélanges. Mais il y a certains mélanges qui restaient interdits. Et encore aujourd'hui, les juifs très rigoureux vont, quand ils vont acheter un vêtement, regardez comment ce vêtement a été fabriquée, et surtout comment, de la composition du tissu, parce qu'il ne doit pas y avoir de mélange entre le lin et la laine. Alors on peut se demander pourquoi, et simplement la raison est assez claire, c'est que le lin, c'est du végétal, donc c'est le monde de l'agriculture. La laine, c'est de l'animal, c'est le monde de l'élevage. Et il ne faut pas mélanger ces deux éléments. On ne doit pas, il doit y avoir une différence. Parce que dans les temps anciens, vous le savez très bien, depuis même Caïn et Abel, c'est le texte le dit bien, il y a cette opposition entre le nomade et le sédentaire. Et pour que, en quelque sorte, on ne porte pas en soi l'image de cette opposition, eh bien, il y a ce commandement qui nous dit ne mélangez pas le lin et la laine. Question, que se passe-t-il avec les fils synthétiques? Mais ceux-ci sont neutres. Donc, ils peuvent être mélangés soit avec le lin, soit avec la laine. Mais pas avec les deux à la fois, exactement. Lévitique 19, versets 23-25. Quand vous serez entré dans la terre choisie et y aurez planté quelque arbre fruitier, vous considérerez le fruit comme une excroissance 3 années durant. Ce sera pour vous autant d'excroissance, il n'en sera pas mangé. Planter un arbre, on attend 3 ans. Et les fruits, même les agriculteurs vous le diront, il vaut mieux les enlever le plus tôt possible pour que l'arbre bénéficie lui-même de sa propre croissance. C'est de la sagesse, oui. Dans la 4e année, tous ces fruits seront consacrés à des réjouissances en l'honneur d'Adonai, c'est-à-dire qu'ils sont offerts en sacrifice. Et la 5e année, vous pourrez jouir de ces fruits de manière à en augmenter pour vous le produit. Je suis Adonai, votre Dieu. Alors c'est la sagesse, on le sait très bien aujourd'hui, mais c'est une intéressante façon de présenter les choses. Pendant 3 ans, la nature, en quelque sorte, doit être laissée à elle-même. La 4e année, tout est offert à Dieu, et la 5e année, après avoir évidemment offert les prémices, on peut consommer du fruit de cette nature lorsqu'il s'agit d'arbres. Et ceci nous indique que dans notre univers et dans notre univers agricole, aujourd'hui, on pousse la production au maximum. Eh bien, ce texte nous dit, si vous voulez préserver la nature, si vous voulez la garder pour reprendre le texte de la Genèse 1, eh bien, si vous voulez le faire, vous devez respecter un temps d'attente, un temps de latence. La nature a besoin de ce temps pour pouvoir donner tout ce qu'elle peut donner. Donner tout ce qu'elle peut donner, vous me direz, mais quand on ajoute des engrais et des méthodes modernes agricoles, la nature donne encore plus, c'est vrai, en quantité, mais pas en qualité. Et ce texte est quand même assez intéressant dans ce sens, c'est qu'il nous dit cette nature, et il nous montre en quelque sorte un chemin. Cette nature, vous ne pouvez pas en profiter depuis le début jusqu'à la fin. Si vous voulez la préserver, eh bien, il y a une certaine retenue à exiger de l'individu. Retenue qui se place également, qui est exprimée également dans un autre texte, celui du Deutéronome chapitre 21, versets 19 à 20. Lorsque l'on fait le siège d'une ville, les arbres fruitiers ne peuvent pas servir à étayer quoi que ce soit, ou à servir de bélier, ces arbres-là doivent être absolument préservés. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité, aujourd'hui, même dans des contrées où il y a des conflits et où il y a des oliviers, de ne pas couper ces arbres selon la parole de la Torah. Et ceci aussi est intéressant, c'est-à-dire que cela donne une limite à la puissance et à la capacité humaine. Vous ne pouvez pas utiliser tout ce qui est dans la nature tel que vous le désirez. Déjà, le premier texte que j'avais cité concernant les arbres et ce temps de latence de 3 ans nous le disait, mais il est bien évident que dans les temps de conflit, nous savons très bien que les lois ne sont plus opérantes, ou du moins, que les belligérants s'estiment au-dessus des lois. Eh bien, même dans ce temps-là, nous dit la Torah, il est indispensable que vous gardiez cette retenue-là, parce que si vous perdez cette retenue, d'une certaine façon, bien, vous avez perdu cette relation avec la nature, et n'oubliez pas que le monde de la nature est celui dans lequel vous vivez, et que vous vous en êtes même un élément essentiel, et que si vous ôtez en quelque sorte à la nature son droit d'être, d'exister, cela peut aussi vous amener à considérer que votre droit est mis à ce moment-là en question. Mais ça, je le laisse pour les politiciens. Il est bien évident que dans la nature, il y a certains éléments qui nous semblent totalement superflus. Nous ne comprenons pas pourquoi il y a des mauvaises herbes. Eh bien, un texte dit « Même ce qui te semble superflu dans le monde a son utilité et fait partie de la création divine, en conséquence de quoi tu dois le respecter. » C'est pourquoi, et d'où savons-nous cela? C'est parce qu'il est dit, et Dieu vit que cela était bien. Donc, lorsque nous enlevons tous, lorsque nous avons des terrains quelque part, nous enlevons tous les mauvaises herbes. Mais il faut savoir qu'elles doivent retourner en quelque sorte à la nature et non pas être dédaignées. Et puis, il y a un texte qui est très curieux, enfin qui est prémonitoire. C'est un texte d'un rabbin de Chassidique qui disait la chose suivante. À l'humain, Dieu a dit, veillir doux domine la création. Chapitre 1, verset 28. Mais il est dit veillir doux, qui est traduit habituellement par ils domineront. Donc l'homme, l'humain, est là pour dominer la nature. Mais il ne faut pas oublier, dit ce rabbin, que ce texte peut être également traduit par « ils tomberont », parce que « yarad » ça veut dire « tomber ». Si l'homme considère la terre comme le terreau dont il est issu, et s'il considère sa ressemblance avec son créateur, il peut dominer la création, parce qu'à ce moment-là, il va la servir. Sinon, s'il agit avec égoïsme, alors il tombe et il est relégué à son plus bas niveau. Je trouve que ce texte est prémonitoire et ce texte nous dit bien aujourd'hui que l'écologie a sa raison d'être et doit nous inciter à penser les deux extrêmes. La première extrême, c'est que, qu'on le veuille ou non, tel que le texte biblique nous le dit, cette nature, nous en faisons partie, et donc nous avons la capacité de l'utiliser et d'influer sur son développement. Mais d'un autre côté, comme nous en faisons partie, nous devons nous prémunir également dans la façon dont nous agissons envers elle, parce que sinon, non pas c'est elle qui nous dominera, mais nous allons être en quelque sorte l'objet de nos propres passions, et ces propres passions nous feront tomber beaucoup plus bas que nous le sommes encore aujourd'hui. Je vous remercie.
Merci Rabbi François. Il va nous falloir un petit moment pour réagir. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions tout près? Vous avez entendu des mouvements. Michel.
J'aurais une question à vous poser. En fait, respecter la nature, qu'on voit à l'heure actuelle avec les OGM, quelles seront les limites dans du possible et de ce qui peut être respecté en voulant respecter?
Alors, attendez, j'ai juste. Alors, en 2001, un rabbin très traditionnaliste a dit la chose suivante. Je vous le lis. La recherche génétique et l'utilisation de ces découvertes sont autorisées pour tout ce qui permet la préservation de la vie humaine et la procréation humaine. La préservation de la vie humaine. Sinon, nous devrions nous en abstenir, car nous ne comprenons pas suffisamment ce que nous faisons lorsque nous mélangeons du matériel génétique provenant d'espèces différentes. Nous pouvons causer de graves et irréparables dommages au monde bon, ou au monde que Dieu a créé pour nous et qui est bon. C'est le fameux principe de précaution. Mais quelquefois, ce principe de précaution doit être lui-même mis avec certaines limites, parce que les précautions, quelquefois, entraînent de plus graves problèmes que le non-respect de ce principe de précaution. Mais cela veut surtout nous dire que, d'une part, si nous avons cette capacité, nous dévoilons, pour reprendre un texte que je vous ai cité tout à l'heure, nous dévoilons des potentialités qui étaient, le texte de Tantruma dit, déjà dans la pensée divine au moment de la création. Mais il est bien évident, et je pense qu'il faut avoir cette réalité à notre esprit, enfin à l'esprit des scientifiques, nous ne savons pas toujours quelles peuvent être les conséquences de ce que nous faisons. Mais nous, alors, d'une part, nous devons avoir conscience de cela, sans pour que cela nous empêche d'aller vers des découvertes. C'est-à-dire que nous ne devons pas non plus nous dire a priori ce que je vais faire est mal, parce que nous ne le savons pas. Nous devons peser le pour et le contre, et c'est extrêmement difficile, extrêmement compliqué, parce qu'aucun aucun homme de science n'est un devin, donc ne peut savoir quelles sont les conséquences ultimes. Et nous non plus, d'ailleurs, quand nous agissons et quand nous parlons, nous sommes en partie inconscients de ce que nous faisons, parce que nous ne savons pas toutes les conséquences que cela peut entraîner. Il y a un autre texte qui dit, et je vais l'interpréter différemment, lorsque tu seras devant le juge suprême, on te demandera pourquoi tu n'as pas profité de telle ou telle chose qui était à ta disposition. Donc, ce texte nous dit, nous avons la capacité et d'une certaine façon même le devoir de recherche. Entre les deux, il y a des risques. Mais c'est dans le fond, lorsque nous prenons une décision dans notre vie de tous les jours, nous prenons à chaque fois un risque. Donc il faut assumer ce risque. Et il faut se dire que la recherche génétique, nous ne pouvons pas et nous ne devons pas l'éliminer et l'interdire. Par contre, elle doit être entreprise et suivie avec le plus de raison et de rationalité possible pour se dire que si il y a un danger, eh bien, la recherche doit à ce moment-là s'arrêter pour essayer de trouver un moyen d'éviter ce danger. Mais on n'a pas le droit d'éviter la recherche elle-même.
Donc on doit être dans le risque.
Nous sommes dans le risque tous les jours. Nous risquons notre existence tous les jours. Et puis, nous ne sommes pas à l'abri de ce qui peut nous arriver et que nous n'avons absolument pas prévu, que Dieu veuille nous préserver, vous et moi. En sortant d'ici, on peut prendre un objet qui tomberait d'en haut et nous prenons un risque. Ou alors on reste, vous savez...
Le risque, il y a du progrès aussi.
Bien sûr. Il y a un autre texte qui dit que si l'homme... Alors, je vous le traduis en termes modernes. Si l'homme, parce que c'est toujours l'homme, la femme aussi, hein, si l'homme n'avait pas ses pulsions, eh bien, il n'aurait pas construit de maison, il ne se serait pas marié, et il n'aurait pas planté. C'est-à-dire qu'il serait resté tel qu'il était avant. Or, cette pulsion est traduite en hébreu « yetzer hara », c'est-à-dire la pulsion vers... rat, vers le mal. Mais, avec le même terme, on a réacha, on a l'autre, donc on pourrait presque traduire, enfin ton autre, ton prochain, on pourrait presque traduire ceci, cette pulsion dans le sens positif, ce yetzer hara, cette pulsion vers le mal, c'est la pulsion vers autre chose. Et nous avons cette pulsion vers autre chose dans notre existence. Et la pulsion pour vers autre chose, c'est simplement votre semaine théologique. Vous auriez pu rester avec vos connaissances d'avant cette semaine. Pourquoi vous êtes venu? Vous êtes venu pour acquérir quelque... Vous pensiez acquérir quelque chose de nouveau. Vous êtes venu parce que vous étiez intéressé pour entendre autre chose que ce que vous entendez d'habitude. C'est la même chose. Mais à un certain niveau, dans un certain domaine. Eh bien, dans le domaine scientifique, c'est la même... On transpose, et puis on se retrouve dans un univers qui est radicalement différent et qui comporte de grands dangers. Mais écouter quelqu'un qui a une autre idée que soi comporte aussi un danger. Donc vous êtes inconscients et inconscientes, mesdames et messieurs.
Question.
Rabbi François, merci déjà pour tout ce que vous nous avez dit. Mais il y a une phrase que j'aime beaucoup, on l'a employée, Jean-Marc et moi, à des occasions diverses, et on ne se l'était même pas dit. Mais moi, je voudrais avoir votre interprétation. Pour l'arrivée du Messie, en tout cas, c'est pour la tradition juive, hein, je le dis malgré tout, si tu dois d'abord planter plante-le d'abord, oui. et après tu verras. Et moi j'aimerais, bon
oui. Si tu es en train de planter un arbre et qu'on t'annonce que le Messie arrive, voilà. Finis ton travail, et tu iras l'accueillir après.
Mais la force de planter d'abord.
Oui, oui, bon, on peut se demander pourquoi c'est ceci et pas autre chose. Bon, ceci étant, planter un arbre, c'est assurer l'avenir. C'est aller au-delà de soi. Il y a un autre midrash qui dit que une personne âgée on dirait aujourd'hui un retraité, est en train de planter un arbre, et une personne est passée, qui était un homme important, et lui a dit, mais pourquoi tu plantes un arbre fruitier? De toute façon, tu ne pourras pas manger de ses fruits. Il lui a dit, c'est vrai, tu as raison. Mais quand je suis né, il y avait des arbres qui ont été plantés par d'autres, dont j'ai bénéficié, eh bien, cet arbre-là... il bénéficiera à mes descendants. Et il y a un autre texte qui dit que, c'était l'empereur Vespasien, je crois, qui dit que le planteur de l'arbre a dit, tu verras que je bénéficierai de ses fruits, et quelques années après, il les lui a apportés, dit le texte, qui est quand même très exagéré, mais c'est pas grave. Planter un arbre, alors, il y a une vision absolument simple des choses, littéraire, c'est que effectivement, quand on plante un arbre, on est en train de construire l'avenir. Alors, ça peut avoir deux implications. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus important de construire l'avenir que d'aller accueillir, et encore plus que d'attendre. Et que dans le fond, l'acte essentiel de l'individu n'est pas d'attendre ou d'accueillir, mais est de construire. Et c'est ce que ce texte peut vouloir nous dire. Et puis, si quelqu'un doit venir vous prévenir que le Messie est arrivé, êtes-vous sûr que ce qu'il dit reflète la réalité ou non? Et puis, le Messie n'est-il pas capable de faire connaître sa venue par lui-même? A-t-on besoin d'un intermédiaire? Et là, ça replace alors dans un autre contexte ce dire, dans le sens que l'action que l'on mène soi-même est essentielle, et que quelquefois, il vaut mieux aller de l'avant soi-même que d'écouter ce que l'on vous dit. Et puis, c'est quand même curieux, c'est vrai qu'on parle d'un arbre, alors qu'on aurait pu dire que lorsqu'il est en train d'ensemencer un champ. L'arbre, évidemment, c'est une certaine pérennité dans le temps. Et puis l'arbre, en hébreu, c'est Etz. Et Etz, quand on le met au féminin, c'est Etza, c'est le conseil. Donc ça peut être aussi interprété à un autre niveau en disant, lorsque tu es dans une recherche, et lorsque tu es dans une recherche intellectuelle, et qu'on te dit ceci ou cela, poursuis ta recherche jusqu'au bout, essaye d'aboutir dans cette recherche, parce que celle-ci t'aidera à vivre plus tard. C'est la même chose que l'arbre. Hein. Mais c'est un jeu de mots que je me permets de faire, que je n'ai vu nulle part, c'est à cause de vous. Mais bon, pourquoi pas, dans le fond. C'est-à-dire que cela, à nouveau, que ce soit un arbre véritable ou une recherche intellectuelle, ceci veut dire que l'individu a priorité et qu'il il est essentiel que cet individu d'abord, en quelque sorte, bâtisse son temps et son environnement. Parce que s'il ne bâtit ni son temps, ni son environnement, ni son être, eh bien, quoi qu'il se passe à l'extérieur, il ne pourra pas en être témoin.
Et le Messie viendra à ce moment-là.
Ou l'ère peut-être. Messianique.
Ou l'ère messianique.
Dans l'industrie alimentaire d'aujourd'hui, il y a tout l'aspect des animaux que l'on mange en disant « je mange de la viande plutôt que je mange du cadavre ». Alors, si le végétarisme serait dans les principes de départ, quels seraient les conseils que l'on peut retrouver plus tard dans les écrits de la Torah ou bibliques qui conseilleraient plutôt une consommation limitée de viande ou une abstention ?
Alors, tout d'abord, il était quand même... Il semblerait que dans le dessein divin, si nous le lisons à travers, si nous essayons de le comprendre à travers les textes que nous avons, l'humain devait être végétarien parce que c'est seulement après le déluge que Dieu a dit à Noé, vous pouvez consommer également de la viande des animaux. Mais si l'on regarde tout le processus qui permettait à nos ancêtres de consommer de la viande, c'est-à-dire tout le processus des sacrifices, nul ne pouvait jusqu'à un certain moment, c'est dans le Deutéronome qu'il y a cette ouverture, nul ne pouvait consommer de la viande si celle-ci ne provenait pas d'un sacrifice. Et de cette viande ne pouvait être, de cet animal ne pouvait, enfin lorsqu'il s'agissait d'un mammifère, ne pouvait être consommé que la partie avant et pas la partie arrière. Une partie de l'animal sacrifié était brûlée, enfin ça dépendait pour quel sacrifice. Une partie de l'animal sacrifié était donnée aux Lévites et aux Cohen. Et donc il restait pour le, entre guillemets, consommateur, une portion congrue. Et très certainement, un éleveur de moutons ou d'autres devait se poser la question, est-ce que je vais offrir l'animal en sacrifice pour en retirer une épaule ? Et puis quelques côtes, puisque c'est ça à quoi il avait le droit, ou est-ce que je vais consommer autre chose ? Simplement, le rapport qualité-prix, en quelque sorte, on dirait aujourd'hui, où sacrifice et aliment amenaient l'individu à être relativement fruste dans sa consommation de mammifères et de volailles également. Et puis dans le Deutéronome, il y a un élargissement parce que le problème qui se pose est un problème simple, c'est que si une personne réside, dans la région de Tibériade, doit amener son animal pour être sacrifié à Jérusalem, pour en ramener la viande à la maison, c'est peine perdue, parce qu'à cette époque, on ne pouvait pas garder, à moins de faire des salaisons sur place, et encore. Donc c'était un investissement important pour un résultat extrêmement maigre. Donc très certainement, dans l'idée première, c'est que nous devrions être végétariens. et qu'ainsi nous préserverions la nature. D'ailleurs, j'avais été frappé un jour de voir quel était le bilan carbone d'un kilo de bœuf, d'un kilo de mouton, d'un kilo de volaille, et puis d'un kilo de blé. Le bilan carbone est enfin, il n'y a aucune comparaison, ce qui fait que je suis en train de finir dans mon congélateur tout ce qui est mammifère et je n'en consommerai plus. C'est déjà une restriction. Mais je pense que très certain, que nous devrions véritablement nous pencher sur cette question, parce que nous avons vécu des années de plénitude, mais si nous voulons partager la nourriture avec les autres, et si nous voulons éradiquer la faim, nous ne pouvons pas penser que l'on puisse, que les populations qui sont aujourd'hui des populations en manque pourront un jour consommer comme nous consommons, ou alors c'est la fin de notre planète. Et donc, à mon sens, il est concevable que l'on devra se réduire à ça. Et puis il y a encore un autre problème, c'est le problème des poissons. De tout ce qui vit dans le milieu aquatique, on a le droit aux nageoires et écailles, mais je suis en train de me... là c'est une question que je me pose et je vous l'énonce malgré tout, parce qu'il y a aussi un autre principe dans la tradition juive qui est de ne pas faire souffrir l'animal. Alors on peut considérer que les méthodes d'abattoir ne respectent pas ce principe. Est-ce que les méthodes qui aboutissent à la viande cachère les respectent peut-être un peu plus, mais respecte-t-on les poissons et la façon de les mettre à mort quand on voit ce qui se passe dans les grands chaluts, ou même un pêcheur, hein. C'est quand même extrêmement violent vis-à-vis de ces êtres vivants. Alors peut-être que nous devrions non seulement éliminer les mammifères, mais éliminer la volaille, et puis éliminer les poissons pour ne pas qu'ils ne sortent pas de leur milieu aquatique et qu'ils étouffent à l'extérieur. Grande question. Mais à midi, c'était très bien, hein.
Autre question.
Voilà, vous nous avez expliqué que le monde avait été créé et était de plus en plus différencié. Et donc, en mélangeant les caractères sexuels, en faisant des croisements, donc des hybrides, hein, on pouvait atténuer cette différenciation. Moi, en tant que scientifique, je pense qu'au contraire, on augmente la différenciation.
Vous avez raison sur le principe, mais je reviendrai sur le goût et les saveurs et la texture. Parce que quelquefois, on oublie ceci. Quelquefois. Mais vous avez raison, on augmente cette différenciation, mais est-ce qu'on augmente véritablement la différenciation, ou est-ce que l'on n'affadit pas une certaine saveur et une autre saveur qui deviennent une troisième saveur qui n'a pas autant de caractère que les deux premières? On peut aussi se poser...
Vous regardez les trois. Là.
Oui, mais quelquefois, celle à laquelle on aboutit...
La pêche, la prune et le brugnon, on est dans
des gouttes. Oui, tout à fait. Mais il faut se méfier d'aller trop loin aussi.
Oui. Comme le syncrétisme. Ça met à peu près tout le monde d'accord, mais ça a perdu sa saveur.
Donc je voulais vous poser une question sur le plan alimentaire. En fait, j'ai lu un article, si j'ai bien compris, c'est qu'en fait, pour que plus de personnes puissent manger, à partir de cellules souches, ils veulent pouvoir créer de plus en plus de steaks, de viande, qui soit à la portée de plus de monde. Donc quel est votre point de vue par rapport à ça?
Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que Je n'ai pas étudié la question, ça ne m'est jamais venu à l'esprit à partir des cellules souches. Pourquoi pas? Mais il faudra voir ce que cela implique comme utilisation des ingrédients de base. Parce que quelquefois, on pense faire de grands progrès et puis on s'aperçoit qu'on utilise énormément de capacités du monde. Je citais tout à l'heure la viande animale et le bilan carbone des uns et des autres. Il faut se poser la question quels seraient à ce moment-là les éléments naturels utilisés pour arriver à développer cette invention. Et pour que ceci puisse produire, pour développer cette production. Très difficile.
Pour le moment, le seul steak qui a été fabriqué et qui a été mangé revenait à 50 000 $.
Oui, oui, oui. Oui, mais enfin, quelquefois, les prix chutent. Oui. Hein.
Autre question ? Oui, on en a un petit peu parlé hier. On a deux textes, effectivement, oui. dans le Premier Testament, sur le repos de la terre et l'explication pour laquelle elle est demandée.
Oui, mais le repos de la terre ne va pas sans le repos des individus. Donc c'est le repos du monde en général. C'est pas le système de jachère où l'un après l'autre, les champs étaient laissés en jachère. C'est tout s'arrête, y compris donc l'intervention de l'individu sur toute la nature. Parce qu'à ce moment-là, on peut se poser la question, est-ce que c'est le repos de la terre qui est l'idée essentielle, ou est-ce que c'est la prise de conscience, du partage nécessaire du monde, enfin de ce qui nous entoure avec tout le monde. Parce que à ce moment-là, chaque individu avait la capacité de se servir. Donc ce n'est pas seulement le repos de la terre, mais c'est le repos de l'humain aussi, de la société, qui pendant un certain temps ne va pas produire. Donc les deux sont intimement liés. Donc ce n'est pas uniquement une question agricole, c'est aussi une question sociétale.
Oui, d'ailleurs, dans un des deux textes, il est bien précisé que cette septième année, ça permettra aux pauvres de se servir... Oui. dans ce qui aura poussé naturellement, et après eux, les animaux pourront également venir manger.
Exactement. Donc c'est pas uniquement une question liée à l'agriculture. C'est tout un rythme de la société, et puis aussi toute une idée de l'individu au sein de cette société, de cette égalité fondamentale qui devrait exister au sein de l'humanité, parce que chacun a le même droit que l'autre. Oui.
Une dernière question. Eh bien, il nous reste à remercier.
Madame.
Si.
Oui, tout d'un coup.
Marie-Claire, viens parce que le micro ne va pas jusqu'à toi. Approche-toi un peu. On va faire moins.
Parce que si la question n'est pas entendue.
Oui, c'est avec votre toute dernière intervention. Je repense à Israël, au pays là-bas, où on a besoin d'eau, bien sûr, pour la culture. Savez-vous comment est perçu ce problème de l'eau par les personnes qui habitent là-bas, alors que l'on sait que les puits sont creusés par certains et pas par d'autres, et qu'il y a une mainmise sur l'eau et que ça semble assez terrible?
Alors, cette question est une question qui a trouvé un certain apaisement. Il y a eu un accord entre les Jordaniens, les Palestiniens et les Israéliens pour le partage de l'eau. Et cet accord, je crois, il y a un mois et demi, a été signé. Qu'est-ce que cela va donner? On sait très bien que les accords peuvent être très beaux, mais que les modalités d'application peuvent être extrêmement complexes et quelquefois rendre difficile la mise en application de ces accords. C'est effectivement un grave problème. C'est un problème là-bas, comme c'est un problème d'ailleurs dans d'autres parties du monde, où l'eau est un bien beaucoup plus... Enfin, où il est évident que l'eau joue un rôle essentiel. Nous nous en rendons compte de façon sporadique quand il y a des interdictions par les préfectures d'arroser les jardins et de procéder à des arrosages de telle heure à telle heure. À ce moment-là, nous nous rendons compte que l'eau est précieuse et que sa pénurie risque d'être un problème incontournable. Dans d'autres pays, c'est effectivement quelque chose de beaucoup plus grave et de beaucoup plus prégnant. Alors, quand ça a des implications politiques, comme entre Israël, les Palestiniens et les Jordaniens, cet aspect politique va aggraver encore la question. Mais quand on regarde ce qui se passe dans certaines régions semi-désertiques en Afrique ou ailleurs, on s'aperçoit que ce problème de l'eau est un problème extrêmement grave et qu'il faudrait un jour peut-être aller... Je crois qu'à 3 ou 4 000 mètres sous terre, il y a des réserves d'eau qui sont presque aussi importantes que la mer qui recouvre notre globe.
Plus importante.
Plus importante même. Donc, il n'est pas exclu qu'un jour ou l'autre, ce problème de l'eau soit résolu, mais il faudra aller très très profond. Mais évidemment, l'eau peut devenir un instrument au service d'une puissance. Et on s'en rend compte, en parlant de la même région, quand la Turquie a voulu construire un barrage, cela a posé d'énormes problèmes, je crois que c'était en Syrie à l'époque ou en Irak. Donc, il est bien évident que ce n'est pas uniquement un problème Israël, Palestine, Jordanie, mais que c'est un problème qui risque de devenir très important pour certains dans certains coins du monde.
L'association Akiba avait invité le géopoliticien Frédéric Ancel à faire une conférence ici. On les avait accueillis au temple et tout le monde avait été très choqué il y a de ça 6 ou 7 ans quand il avait dit il y aura des guerres pour l'eau dans le monde avant qu'il y ait des guerres pour le pétrole.
Oui.
Merci, Rabbi François. Vraiment, nous sommes toujours très heureux et à chaque fois, c'est pas Ara le mauvais, mais c'est Ara l'autre. On entend un autre son qui nous réveille, qui nous interpelle et qui, j'espère, va nous faire avancer. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté aussi spontanément. Ça n'a pas été évident cette année, je vous le dis. Vous faites partie des seuls qui ont accepté d'emblée et tout de suite, ce qui simplifie la tâche de l'organisateur. Donc, les auditeurs vous remercient et moi encore plus personnellement. On va prendre une habitude hongroise que je viens d'apprendre au diocèse ce matin. C'est qu'en Hongrie, pour effacer la lassitude, on remercie la mère de famille qui a fait le repas à la fin du repas. Nous, on a l'habitude de faire une bénédiction au début du repas, mais dans la tradition hongroise, les enfants se lèvent à la fin du repas et vont embrasser leur mère. Parce que, voilà, c'est pas évident qu'une mère de famille fasse à manger à chaque repas.
Et en Turquie, le plus grand compliment qu'on puisse adresser à une femme, c'est lui dire après un repas que tes mains soient bénies.
Et ben voilà, ben, que les mains de nos cuisinières, et je crois qu'il y a quelques cuisiniers dans le groupe, soient remerciés. Donc je vous rappelle la suite de la semaine. Demain, l'étude biblique sera dirigée par le père Barcellini. J'espère qu'il sera totalement remis. Jeudi, c'est le pasteur de l'église baptiste évangélique de Chambéry qui viendra. Ça sera notre pasteur Charlotte Gérard qui finira les études bibliques vendredi. Jeudi soir, il y a une conférence à 20h sur le même sujet, Où va le monde quand écologie et théologie se rencontrent. Les conteuses bibliques du diocèse à 17h30 au temple, samedi après-midi. Et puis un culte de clôture dimanche avec le pasteur Bernard Rohrdorf de Genève, qui est un ancien professeur de la faculté de théologie et spécialiste de ces problèmes d'écologie. Je rappelle qu'il y a en bas les clichés du concours photo sur ce sujet, le tableau de notre paroissien Jean-Yves Gonzalez sur ce sujet. Et donc, le rabbi François a accepté qu'il soit enregistré et il me confiera son texte par Internet. Et tout sera mis sur le site par notre webmaster Norbert Prin quand il voudra bien revenir de sa cure, donc autour du 20 avril. Voilà. Merci beaucoup et à demain.
Mais bon, sa voix était portante.
Oui, mais
heureusement.
Récemment.